Radio Prague, les informations.
Bonjour, la date des prochaines élections régionales et sénatoriales a été fixée au 7 et 8 octobre prochain. La République tchèque va envoyer une aide humanitaire à la Syrie. Et puis, nuit debout à Paris, un orchestre amateur interprète la symphonie du Nouveau Monde de Dvořák, place de la République. Les prochaines élections régionales et sénatoriales auront lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ainsi en a officiellement décidé le président tchèque Miloš Zeman, a annoncé ce jeudi son porte-parole sur son compte Twitter. Mercredi, le chef de l'État tchèque avait annoncé que le scrutin aurait lieu une semaine plus tard, avant de se rétracter ce jeudi. En effet, selon la loi, les élections doivent être organisées dans les 4 années suivant les précédentes, faisant des 7 et 8 octobre 2016 la date limite pour leur tenue. La police tchèque a arrêté 26 migrants illégaux originaires d'Afghanistan. Près de la ville de Domažlice, en Bohême du Sud, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, ce jeudi. Les réfugiés, dont 11 enfants, ont été découverts dans une camionnette immatriculée en Bulgarie. La police est à la recherche des conducteurs qui ont réussi à s'échapper. Quelques 3500 personnes ont été détenues par la police depuis le mois de juin 2015, date de la mise en place de mesures plus strictes pour faire face à la crise migratoire. Selon le ministère de l'Intérieur, 95 personnes sont actuellement détenus dans un des centres de rétention du pays. La République tchèque va envoyer une aide humanitaire à la Syrie à hauteur de 4 millions de couronnes, soit près de 150 000 euros, a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères Martin Tlapa après un entretien avec son homologue syrien Faisal Al-Migdad. D'après lui, le matériel médical devrait pouvoir parvenir jusque dans les zones peu accessibles du conflit. Il a également ajouté qu'à l'avenir, la République tchèque pourrait contribuer à hauteur de 200 millions de couronnes en aide si le gouvernement l'approuve. À l'heure actuelle, la République tchèque est le seul pays membre de l'Union européenne à disposer d'une ambassade en service depuis l'éclatement de la guerre civile en Syrie, une ambassade à Damas donc. L'ambassade tchèque qui a été chargée de sonder les besoins et les possibilités d'aide dans les régions les plus frappées par le conflit supplée également la diplomatie américaine. L'ambassadrice Eva Filippi étant reconnue comme une grande spécialiste de la situation en Syrie. Un tribunal de la ville de Hradec Králové a tranché et estimé que le château Renaissance d'Opočno en Bohême de l'Est appartenait à l'État tchèque. La cour a ainsi rejeté la procédure d'appel lancée par la comtesse Kristina Colloredo-Mansfeld, une descendante des propriétaires d'origine du château, confirmant ainsi le verdict d'une cour de Rychnovna Kněžno en 2015. Le château d'Opočno avait été dans un premier temps confisqué par les nazis, puis nationalisé sous le régime communiste après la Deuxième Guerre mondiale. Il fait l'objet d'une bataille judiciaire entre les descendants de la famille Colloredo-Mansfeld et l'État tchèque depuis 1991. Des milliers de personnes étaient rassemblées mercredi soir, place de la République à Paris, pour une nouvelle nuit debout, mouvement politique initié fin mars après la manifestation contre la loi travail et qui perdure depuis. Cette nuit debout pourrait avoir battu son record d'affluence grâce à la présence d'un orchestre amateur interprétant la fameuse symphonie du Nouveau Monde du compositeur tchèque Antonín Dvořák. L'idée de cet orchestre debout a été lancée sur les réseaux sociaux, rassemblant plusieurs centaines de musiciens amateurs. Sur les réseaux sociaux, les organisateurs expliquaient le choix de cette symphonie ainsi: parce que nous souhaitons un nouveau monde, tout simplement meilleur, dans lequel la justice et la culture sont la base de la société. Nous avons le droit et même le devoir de nous lever. Fin de citation. On termine par un mot de météo. Vendredi, jour de la fête des Evgeniés, le ciel sera encore bien dégagé, mais le week-end s'annonce pluvieux et les températures en baisse. On profitera encore toutefois d'une journée douce, avec des maximales oscillant entre 12 et 16 degrés, voire 18 degrés au sud-est du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc tout d'abord à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord le classement mondial de la liberté de la presse, établi comme chaque année par Reporters sans frontières, un classement où la République tchèque a reculé de 8 places en l'espace d'un an. Nous entendrons s'il convient de s'en inquiéter. Nous parlerons aussi de littérature et communisme, et ce à travers une recherche qui met en lumière les enjeux politiques de la circulation des livres entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide. Et puis, comme tous les 15 jours le jeudi, nous retrouverons la rubrique tourisme dans la seconde moitié de cette émission. Une rubrique tourisme qui nous emmène cette semaine à la découverte des 5 meilleurs théâtres historiques de République tchèque. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. La liberté de la presse en République tchèque ne serait plus tout à fait ce qu'elle était il y a encore un an de cela. Si le constat est forcément exagéré, c'est néanmoins ce que pourrait laisser à penser le classement mondial annuel de Reporters sans frontières, un classement publié mercredi. Le résultat 2016 peut sembler quelque peu étonnant pour la République tchèque. Celle-ci a en effet reculé de 8 places en l'espace d'un an pour se retrouver en 21e position sur un total de 180 pays.
Déjà, il faut minorer cette évolution parce que finalement, le score est vraiment la performance qui est comparable d'une année à l'autre. La performance est quasiment la même, le score est quasiment le même. En revanche, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais qui est plus due au mouvement autour de la République tchèque dans le classement.
Ces propos sont ceux qu'Antoine Herry, alors responsable du bureau Union européenne et Balkans chez Reporters sans frontières, avait tenu pour Radio Prague il y a 2 ans de cela. À l'époque, la République tchèque avait progressé de 3 places pour se retrouver à une flatteuse 13e position au classement établi par l'ONG. Très médiatisé à chaque sortie, ce classement de Reporters sans frontières se fonde sur 7 indicateurs pour évaluer la liberté des médias dans un pays, à savoir le niveau des exactions, l'étendue du pluralisme, l'indépendance des médias, l'environnement et l'autocensure, le cadre légal, la transparence et les infrastructures.
On a une méthodologie bien définie qu'on utilise depuis 10 ans maintenant, un peu plus même. Qui consiste à utiliser un questionnaire long de 87 questions qu'on fait passer dans 180 pays, les 180 pays qui figurent au classement, auprès de notre réseau. Et ces questions, en fait, traduisent l'état de la liberté de l'information dans chacun de ces pays.
Depuis, la situation se serait donc dégradée en République tchèque, sauf que, comme le précisait déjà Antoine Herry en 2014, l'évaluation de la situation établie par Reporters sans frontières est forcément quelque peu tendancieuse.
Tout part en fait de ces questions de perception qui figurent au questionnaire. Effectivement, c'est dur à mesurer, ce sont des questions très subjectives qui dépendent de ce que vivent les journalistes. Alors, on leur demande pas de se mettre à la place de la profession, puisqu'ils en sont, on n'en est pas capable, malheureusement, on ne peut pas exprimer ce que ressent l'ensemble de ses collègues à l'échelle d'un pays, c'est impossible, mais enfin, on leur demande à ces journalistes que l'on considère représentatifs d'une certaine idée du journalisme et aux chercheurs qui observent ces professions, des acteurs d'information, de traduire dans quelles conditions ils exercent leur métier, en fait, finalement. C'est-à-dire à quelle liberté de parole ils ont lorsqu'ils veulent s'exprimer sur les agissements du pouvoir politique, économique, éventuellement religieux, etc.
Si l'on s'en tient aux commentaires qui figurent dans le rapport publié par Reporters sans frontières concernant la République tchèque, la situation n'est d'ailleurs pas spécialement alarmante, notamment parce que, comme l'estime l'ONG, la justice protège la liberté des médias. La diffamation est un crime, mais des poursuites judiciaires sont rarement intentées, peut-on ainsi lire sur le site internet de Reporters sans frontières. Mieux, en 2005, la Cour constitutionnelle a fait savoir que tout jugement de valeur était protégé aux yeux de la loi, limitant ainsi les velléités des procès pour diffamation. Quand la satire politique est incriminée, les tribunaux locaux prennent souvent parti pour les médias accusés, l'idée étant de conserver la caricature traditionnelle dans le pays comme une forme légitime de critique. Fin de citation. En matière de liberté de la presse, en République tchèque, le point noir le plus souvent évoqué ces dernières années est l'appartenance de Mafra, le plus grand groupe de médias du pays, qui publie notamment les quotidiens Mlada Fronta Dnes et Lidové Noviny, à Andrei Babiš. Andrei Babiš, richissime homme d'affaires devenu ministre des Finances et vice-premier ministre. À en croire Yann Irak, professeur à l'Institut des études en communication et journalisme à la faculté des sciences sociales de l'Université et Charles à Prague. La situation ne serait cependant pas plus inquiétante et singulière que cela. Cette interconnexion que personnifie Andrei Babiš est malheureuse, c'est une évidence, mais ne soyons pas naïfs non plus. Pour ce qui est des médias, la connexion entre le monde des affaires et la sphère politique a toujours existé. Disons que dans le cas d'Andrei Babiš, cela saute un peu plus aux yeux. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème fondamental. Plus généralement, le véritable dilemme des médias privés est de déterminer qui est le détenteur de la liberté d'expression. S'agit-il de la liberté des éditeurs, des groupes propriétaires des médias, ou bien de la liberté de ceux qui travaillent dans ces médias? C'est là une question à laquelle il est difficile de répondre. Et une question à laquelle ne répond pas non plus Reporters sans frontières, qui indique ne pas avoir de modèle de référence en matière de fonctionnement des médias, pour peu que le pluralisme de ceux-ci ne soit pas menacé par leur concentration économique. Historienne et sociologue, chercheuse au CNRS, Johanna Popa était récemment à l'Institut français de Prague pour présenter son ouvrage intitulé « Traduire sous contrainte, littérature et communisme 1947-1989 ». Avancée historiographique notable, cette recherche met en lumière les enjeux politiques de la circulation des livres entre l'Est et l'Ouest. Il s'agit pour l'historienne de relativiser la stricte séparation instaurée par la guerre froide et de comprendre comment le livre participe à un véritable échange culturel et politique. Plus largement, Johanna Popa s'est donnée pour mission d'analyser sociologiquement le rôle du traducteur, qui selon elle est l'élément primordial de ce processus circulatoire. Johanna Popa a répondu aux questions de Capucine Jaffé.
Il est déterminant parce que déjà il fait le travail, travail de translation linguistique, indispensable à la diffusion des textes dans une autre langue, mais il est déterminant aussi pour plein d'autres raisons. C'est parce qu'il a la connaissance aussi des univers littéraires d'origine des textes. Il peut parler du texte, il peut faire connaître le texte avant qu'il ne soit traduit. Et parfois, il peut faire plein d'autres choses compte tenu des contraintes qui pèsent sur la circulation du texte. C'est-à-dire qu'il peut, y compris, non pas prendre la place de l'auteur lui-même, mais aider cet auteur qui est pris dans un faisceau de contraintes très compliquées à gérer des situations d'édition compliquées. Je pense notamment à des cas d'édition non autorisés.
Est-ce qu'on peut parler d'un soft power socialiste avec cette littérature qui pénètre l'Ouest?
Pourquoi déjà uniquement socialiste? C'est-à-dire la littérature est un moyen tout à fait discret de faire de la politique, pas seulement socialiste, antisocialiste également. Donc, il y a plein d'enjeux de guerre froide qui peuvent se jouer de manière euphémisée, ce qui n'a pas l'air d'être politique. On peut faire de la soft propagande à travers des textes littéraires. On peut, donc les deux, entre guillemets, blocs, peuvent avoir recours à des moyens soft pour essayer d'avancer une cause contre une autre. C'est une guerre froide culturelle.
Quelles ont été les influences en France des livres provenant de l'Est? Comment ces livres ont-ils été reçus?
C'est extrêmement difficile de donner une réponse unique. Tout cela se décline en fonction des moments historiques, parfois se décline aussi en fonction de l'origine nationale. Il s'agit toujours des usages faits par quelqu'un de situé et pour quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est, par exemple, si on s'en tient aux premières années de la guerre froide, effectivement, la littérature des nouvelles démocraties populaires, pour quelqu'un qui a une sensibilité communiste ou qui est membre du Parti communiste, cette littérature vient en renfort pour mener cette guerre froide contre le camp impérialiste américain, contre la littérature plus généralement anglo-saxonne. On peut utiliser de cette manière cette littérature, mais d'autres en même temps peuvent se saisir des écrits qui témoignent au contraire de ce que l'instauration des régimes communistes a pu créer en termes de répression dans les pays de l'Est pour défendre une cause contraire. Puisqu'on est à Prague, pour faire avancer la cause des réformateurs tchécoslovaques et le processus qui aboutira au printemps de Prague. Donc, se saisir des références est-européennes et plus particulièrement tchèques et slovaques pour dire, voilà, à l'Est, on fait une bonne littérature, à l'Est, on réfléchit et ces références nous aident à faire évoluer le réalisme socialiste et la théorie du réalisme socialiste, y compris en France.
Vous bousculez le champ historiographique. Pourquoi est-ce que des études justement sur ces échanges culturels entre l'Est et l'Ouest ne représentent que la dimension dichotomique de la guerre froide?
Oui, peut-être un peu prétentieux de dire que je bouscule. Oui, j'ai essayé par la force des choses et par la force du matériau que j'ai exploré, de réfléchir à aller un peu plus loin. Puisqu'effectivement, vous faites allusion à une représentation qui est longtemps restée un peu traditionnelle, disons, mais qui est en train d'être largement dépassée désormais, qui voyait donc la guerre froide comme une confrontation tout à fait frontale, avec une image assez manichéenne, avec une séparation déjà très, très stricte entre les deux blocs, qui interdisait l'idée d'un passage, d'une interaction, etc. Disons que c'est plus simple de créer des choses simples.
Pourquoi vous avez choisi justement ce thème? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le traiter?
Il y avait un intérêt pour l'univers professionnel en tant que tel, l'univers littéraire en l'occurrence, du point de vue qui n'était pas littéraire. Donc je voulais avoir une vision autre sur l'univers littéraire que celle qu'un littéraire peut avoir. Donc, ce qui m'intéressait, c'était le fonctionnement social de cet univers, d'une part. D'autre part, il y avait un intérêt pour le processus lui-même que je voulais étudier, processus circulatoire, ce qui m'a amené à chercher quelque chose de plus univoque méthodologiquement et empiriquement. Donc, il y avait tout ça. Il y avait évidemment un intérêt pour une expérience historique que j'avais un tout petit peu connue, pas trop, mais suffisamment pour m'aider à comprendre certaines choses. Après, j'ai essayé de penser mon objet sans trop me préoccuper de ce que, pour des raisons autres que scientifiques, on pourrait attendre de moi. Donc, c'est aussi l'idée que je suis aussi un scientifique. La dimension éthique entoure tout cela.
Voilà, c'était donc Johanna Popa, historienne et sociologue, auteur de l'ouvrage intitulé « Traduire sous contrainte, littérature et communisme 1947-1989 ». C'est avec Johanna Popa que s'achèvent ces faits et événements. Merci de votre attention, merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de ce programme, une suite consacrée comme tous les 15 jours le jeudi au tourisme en République tchèque. Depuis lundi dernier, le projet intitulé « La route européenne des théâtres historiques » qui relie les plus beaux théâtres de 12 pays européens présente dans son guide électronique également les 5 meilleurs théâtres tchèques. Le fameux théâtre baroque de Český Krumlov, les théâtres des châteaux de Litomyšl, Kačina et Mnichovo Hradiště ou encore le théâtre des États à Prague forment avec 5 théâtres autrichiens dont par exemple celui de Graz, un des 8 circuits proposés, le circuit de l'Empereur. Partons dans cette nouvelle rubrique touristique à la découverte de ces 5 scènes tchèques. La rubrique a été préparée par Alžběta Ticha.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Unique à l'échelle mondiale, le célèbre théâtre de Český Krumlov, une ville située dans le sud de la Bohême, représente la scène baroque la mieux conservée au monde. Comparable seulement à celui du Palais Royal à Drottningholm en Suède, ce théâtre a été construit en 1685 par la famille Eggenberg et réaménagé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par la famille Schwarzenberg qui lui a donné son apparence actuelle. Fermé officiellement en 1898 pour des raisons de sécurité, il a rouvert ses portes au public après de longues années de restauration en 1997. Grâce à une machinerie originale de la scène, aux éclairages et aux décors en bon état, cette salle propose de découvrir le fonctionnement caractéristique des théâtres de l'époque dans toute sa richesse, ce que confirme la guide Teresa Hofbauerová.
V současné době se nám dochovalo 13 kompletních scén.
13 ensembles de décors complets ont été conservés jusqu'à nos jours. Sur scène, vous pouvez voir le décor du jardin, mais nous possédons aussi la chambre privée, le port, l'église, la forêt, etc. Différentes parties de ces décors peuvent être combinées entre elles. Le changement des décors dure entre 10 et 12 secondes. C'est l'un des principes du théâtre baroque. Cette procédure est très rapide.
Teresa Hofbauerová explique par ailleurs que pour compléter l'illusion, un trait caractéristique des arts de la scène du XVIIIe siècle, le théâtre est équipé de différents appareils qui accompagnaient le visuel par des effets sonores imitant la pluie, des orages ou le vent.
De plus, la machinerie installée en dessous du théâtre servait à l'apparition d'êtres surnaturels. Et la machinerie installée en haut permettait de manier l'appareil volant destiné à faire apparaître sur scène différentes divinités. Dans nos collections, il y a également une machine pour créer des déferlements de vagues. Ainsi, les spectateurs pouvaient voir sur scène même des bateaux ou des dauphins.
Près de 600 costumes originaux sont également conservés et rangés à l'abri des regards actuellement dans les réserves afin d'échapper à des conditions climatiques défavorables. Avec tout cet équipement de la période baroque, le théâtre, d'une capacité de 150 sièges, représente une vraie rareté. C'est la raison pour laquelle les pièces n'y sont montées que 5 ou 6 fois par an à l'occasion de différents festivals. Bien que plus petite, une autre scène baroque existe depuis 218 ans déjà à l'intérieur du château de Litomyšl en Bohême de l'Est et se classe ainsi parmi les 5 théâtres de cette époque conservés jusqu'à nos jours en Europe. Édifiée par le propriétaire du château, le comte Jiří Josef Wallenstein Wartenberg, qui a participé en tant que comédien à la première représentation donnée le 23 avril 1798, ce théâtre familial est construit en bois et peut accueillir jusqu'à 120 personnes. De même que son grand frère de Český Krumlov, ce petit théâtre possède encore aujourd'hui une machinerie pleinement fonctionnelle. Parmi ses équipements les plus précieux, on compte notamment 2 rideaux peints et l'ensemble de 16 décors amenant le spectateur dans une salle gothique, dans une armurerie ou dans une prison. Intendante du château, Zdeňka Kalová poursuit.
Ces décors ont été commandés auprès de Josef Platzer à Vienne et réalisés sur mesure pour ce théâtre. Ils ont été installés justement pour la première représentation en 1798.
Peintre et scénographe Josef Platzer est devenu célèbre notamment pour sa création des décors pour les opéras de Mozart à Vienne ou pour le théâtre Nostice de Prague, rebaptisé plus tard Théâtre des États. Deux autres théâtres tchèques faisant partie du projet La Route européenne des théâtres historiques nous amènent au château de Mnichovo Hradiště en Bohême du Nord et au château de Kačina près de Kutná Hora dans la région de Bohême centrale. Le premier est né en 1833 à l'occasion d'une rencontre au château de Mnichovo Hradiště entre l'empereur d'Autriche et le tsar de Russie visant à lancer une coopération contre les mouvements révolutionnaires en Europe. Son intendant Radovan Chmel explique.
Kromě jednání tady byla i jakási společenská zábava.
Ces négociations étaient accompagnées par des divertissements culturels. On y a joué 3 spectacles qui étaient présentés par des comédiens du Théâtre des États à Prague. Parmi ces 3 spectacles, l'un était donné en tchèque et s'appelait « Le tchèque et l'allemand ».
Construite en vitesse, cette scène a été montée dans une salle déjà existante. C'est la raison pour laquelle le théâtre, qui est important notamment pour son ensemble des costumes bien conservés, ne possédait pas les mécanismes couramment utilisés à l'époque. Radovan Chmel.
Chaque décor doit être manié par quelqu'un. lors de la représentation, il faut donc changer tous ces décors à la faveur d'un signe pour être sûr qu'ils soient changés en même temps.
La deuxième salle, située dans le château de Kačina, a été conçue par Jan Rudolf Chotek, maître du château et grand amateur de ce type d'art, qui a lui-même écrit des pièces. Jan Rudolf Chotek n'a pas néanmoins vécu assez longtemps pour voir l'ouverture de cette scène, qui s'est tenue le 4 novembre 1851. Selon les documents de l'époque, ce théâtre, avec une capacité de 350 places, a été actif pendant seulement une vingtaine d'années et présentait notamment des pièces du petit-fils de son fondateur, Rudolf Karel Chotek, à la réalisation desquelles ont participé en tant que comédien, musicien et artiste d'autres membres de sa famille. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le château a servi de centre de loisirs pour la jeunesse hitlérienne et le théâtre a été réaménagé en entrepôt. À l'époque de sa gloire, il est néanmoins devenu reconnu pour l'emploi des mécanismes qui n'avaient pas d'équivalent dans d'autres châteaux. Le circuit de l'empereur s'achève avec la visite du fameux Théâtre des États à Prague, l'un des plus vieux théâtres en Europe à avoir maintenu leur fonction première et appelé à l'origine Théâtre Nostitz, d'après son fondateur František Antonín Nostitz-Rinek. Conservatrice du Théâtre National, dont le Théâtre des États fait partie depuis plus de 95 ans, Petra Danielova revient sur la construction de ce bâtiment qui a été inauguré le 21 avril 1783 avec la tragédie Emilia Galotti du dramaturge allemand Gotthold Ephraim Lessing.
Aniž by ten pozemek vlastnil, tak to divadlo začali stavět. A to se vlastně stalo v roce...
František Antonín Nostitz-Rinek n'était pas propriétaire de ce terrain quand la construction du théâtre a commencé en 1781. Ce n'est qu'après la fin des travaux du théâtre que la ville le lui a vendu. Il avait de grandes ambitions, comme d'y mettre en scène un répertoire assez exigeant, des opéras et bien évidemment aussi des pièces de théâtre. Les pièces notamment en allemand, l'opéra en italien.
Samozřejmě v kombinaci s činohrou, především v němčině a opera italská.
Le premier spectacle en tchèque a été donné le 20 janvier 1785, mais le public a dû néanmoins attendre jusqu'en 1812 pour pouvoir assister à des pièces tchèques régulièrement. C'était également sur cette scène qu'a résonné pour la toute première fois en 1834 la célèbre chanson Kde domov můj, qui est devenue plus tard l'hymne national de la nouvelle Tchécoslovaquie puis de la République tchèque. Pendant les plus de 230 ans de son existence, le théâtre a accueilli de nombreux artistes tchèques et étrangers, dont Karel Hynek Mácha, Niccolo Paganini, Gustav Mahler ou Karl Maria von Weber. Cet endroit est néanmoins étroitement lié avec la personnalité de Wolfgang Amadeus Mozart, qui, après l'immense succès à Prague de son opéra Les Noces de Figaro, qu'il a personnellement dirigé, a écrit pour cette ville et a présenté au Théâtre des États en première mondiale son œuvre Don Giovanni. L'application de la route européenne des théâtres est destinée à tous ceux qui veulent réellement ou virtuellement visiter ces bâtiments abritant d'importantes scènes tchèques et européennes et présentent des renseignements pratiques ainsi que de nombreuses informations sur leur histoire et des photos de leurs intérieurs.
C'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy !